Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Retour aux urnes dimanche pour les Roumains, 5 mois après le choc de la présidentielle annulée. Le candidat surprise d'extrême droite a entre-temps été exclu de la course et un nouvel acteur s'est immiscé en la personne de Georges Simion, un autre leader de l'extrême droite roumaine, très critique de Bruxelles, un fan de Donald Trump et une star des réseaux sociaux dont les principaux rivaux sont deux candidats pro-européens. Le maire de Bucarest, Nicos Sundan, et le candidat de la coalition au pouvoir, Crin Antonescu. L'élection du président roumain est scrutée de près à l'ouest du continent européen, alors que la Roumanie, pays membre de l'Union européenne, est devenue un pilier essentiel de l'OTAN depuis l'invasion russe de l'Ukraine voisine. Scrutée de près également par les États-Unis, qui n'ont pas hésité à exercer des pressions indirectes qui ont beaucoup agité la campagne. Les États-Unis qui disposent de quelques 1700 soldats américains sur le sol roumain. Jusqu'ici résolument pro-occidentale, la Roumanie fait face à une percée de forces politiques favorable aux intérêts de Moscou et soutenu par l'administration Trump, un pays stratégique qui borde l'Ukraine et la mer Noire. Regard avec nos invités par téléphone. Catherine Durandin, professeure émérite des universités, historienne. Bonjour.
Bonjour.
Depuis Bucarest, Florentin Cassonnet, journaliste au Courrier des Balkans. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Laurentiu Miu, journaliste pour le site internet universoul.net. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, rappelons le contexte de ce scrutin de dimanche. Il s'agit de recommencer à zéro le processus électoral qui avait été entamé à l'automne dernier et annulé sur des soupçons d'ingérence russe. Cette annulation, elle a fait couler beaucoup d'encre, en même temps qu'elle a provoqué de fortes tensions dans la société qui dénonce un délit de démocratie. Le scrutin a été annulé le 6 décembre 2024 par la Cour constitutionnelle à la suite de soupçons de manipulation russe en faveur de Kalin Georgescu. Catherine Durandin, qu'est-ce qu'il est vraiment reproché à Kalin Georgescu?
Bon, il lui est reproché d'avoir enfreint la Constitution et surtout d'avoir totalement menti sur le financement de sa campagne. Il a prétendu avoir dépensé 0 centime. Or, il y a eu des paiements via blanchiment d'argent, via TikTok, via des donateurs influenceurs avec des sommes extraordinairement importantes, plus un homme d'affaires impliqué dans tout cela. En deux mots, si l'on veut s'informer sur l'ambiance de cette campagne, il faut aller sur le site de Viginum, qui est l'organe d'enquête concernant les malversations sur réseau, qui travaille pour le secrétariat général à la défense et à la sécurité française. Le travail qui a été fait est absolument remarquable et complètement concernant, parce qu'on voit à quel point ces élections ont été truquées.
Élections truquées, pourtant, voilà, je l'ai dit, ça a beaucoup secoué en Roumanie. D'aucuns évoquent une cabale judiciaire, des atteintes à la démocratie. Florentin Cassonnet.
Oui, elles ont été truquées, c'est sûr. Pas que par des acteurs extérieurs, il y a eu aussi des manœuvres d'acteurs à l'intérieur, notamment le Parti social-démocrate et le Parti national-libéral, qui sont au pouvoir, qui ont fait des transferts de voix aux candidats d'extrême droite, Georges Simion et Kalin Georgescu. Donc, ce serait un peu court de dire que l'élection a été annulée à cause de l'ingérence russe.
Laurentiu Miu.
Cette élection a été annulée à cause d'ingérence russe. Il y avait aussi, oui, des manœuvres de politique intérieure, mais il s'agissait de l'intérêt du Parti social-démocrate de voir M. Georges Simion, que vous avez déjà mentionné, dans le deuxième tour, donc à l'époque, il y a 5 mois. Ces accusations ont été bien présentes dans la média. Il y avait des accusations aussi lancées par des politiciens de Bucarest, mais à mon avis, il s'agit en Roumanie d'un problème de faiblesse locale. Mais de l'autre côté, ces faiblesses locales ont accompagné chaque élection, chaque processus électoral pendant les 35 années d'élections libres en Roumanie après la chute du régime Ceaușescu. Mais jamais il n'y avait pas une situation comme celle d'aujourd'hui, quand le processus électoral soit si vicieux, soit si faussé par ses faiblesses locales. Le problème, c'est le rôle principal, à mon avis, est, de ce que je lis dans toutes les enquêtes officielles et médiates qui ont été faites jusqu'à maintenant. Le problème principal, c'était l'ingérence russe qui c'était une ingérence qui s'est produite pendant des années, des mois. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé une semaine, 2 semaines, 1 mois avant les élections de novembre. De toute façon, je crois que le cas de Roumanie, c'est un étude de cas pour Roumanie et pour tous les autres alliés de Roumanie qui sont intéressés de voir comment se passe une ingérence d'un pouvoir hostile dans un processus électoral.
Alors, Catherine Durandin, est-ce que la Roumanie est aujourd'hui mieux préparée qu'en novembre dernier par rapport à cette question d'ingérence extérieure, en l'occurrence ingérence russe? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du paysage politique actuel?
Alors, sur la première question, oui, le gouvernement a réagi. Et les citoyens sont alertés par rapport à toutes les manœuvres qui pourraient se produire. Maintenant, le paysage, il est très volatile, même si les derniers sondages les plus récents montrent que le candidat de la coalition pouvoir socialiste, libéraux, parti hongrois, arrive assez près du candidat de l'extrême droite, George Simion. Vient ensuite le maire de Bucarest, assez près du candidat de la coalition. Puis Victor Ponta, qui est un candidat difficile à classer, en tout cas souverainiste, mais sans être complètement anti-européen, et qui ira, je dirais, à la pêche aux plus offrants. Donc on ne peut pas savoir où se reporteront les voix qui vont à Ponta, autour de 10% à peu près. Je ne voulais pas l'oublier tout de même. L'infâme, la candidate Elena Lasconi, qui s'était présentée face à Calin Georgescu, est assez faible dans les sondages. Elle a été abandonnée par son parti qui soutient le maire de Bucarest.
Alors, la surprise finalement pour cette nouvelle élection, c'est de voir que donc Georges Simion fait partie des favoris, hein, Florentin Cassonnet, le remplaçant d'extrême droite de Calin Georgescu, qui de facto a été interdit de se représenter. Qu'est-ce que l'on sait de Georges Simion? Et comment expliquer plus largement, que l'extrême droite soit en train d'opérer l'ascension qu'elle est en train d'opérer?
Ce qu'on sait de Georges Simion, c'est qu'il vient du milieu des ultras de foot à Bucarest. Et c'est un militant voilà, qui a commencé comme ça sur le terrain, qui a commencé du côté de la Moldavie. Donc, il a milité pour l'union de la Moldavie à la Roumanie. Donc on est sur voilà, c'est l'idéologie de la Grande Roumanie, quoi. Ensuite, ce qu'il a fait, il a utilisé une stratégie à la Marine Le Pen et à la Meloni de normalisation, où il s'est recentré depuis l'extrême droite vers le centre, en tout cas en apparence, pour essayer d'apparaître comme quelqu'un qui pourrait occuper un poste gouvernemental. Par ailleurs, quand même, dans son parti, il y a d'autres personnages qui, eux, n'ont pas du tout opéré ce recentrage et qui soutiennent, par exemple, des figures légionnaires, c'est-à-dire le mouvement fasciste autochtone de l'entre-deux-guerres, donc ont des positionnements vraiment très, très à l'extrême droite. Et Calin Georgescu, il faut le rappeler quand même, il a été président d'honneur de ce parti, Daour. Donc, tout ce travail de fond que Georges Simion et son parti ont fait depuis 2020, oui, 2020 et leur entrée au Parlement, qui a servi à Calin Georgescu pour la présidentielle de l'hiver dernier, là, aujourd'hui, c'est lui maintenant qui devrait en récupérer les fruits, même si sa personnalité est un petit peu moins populaire que celle de Calin Georgescu.
Il y a aussi Laurent Soumillou, et je parle sous votre contrôle bien sûr, une sorte de ras-le-bol généralisé envers une même classe politique qui est au pouvoir depuis la fin du communisme il y a 40 ans, ce qui explique aussi cette place importante qu'est en train de prendre l'extrême droite en Roumanie.
Il faut dire qu'après le communisme, on a eu quelques épisodes de changement de pouvoir. Donc, on n'a pas le même parti en pouvoir depuis 35 ans. De l'autre côté, l'extrême droite de Roumanie exploite presque le même thème qu'on peut voir exploiter en Europe, dans d'autres coins du continent, même en France. Beaucoup de choses ont été amplifiées par la pandémie de Covid. De l'autre côté, il s'agit de cette ascension de réseaux sociaux qui presque sont l'environnement prédilect pour tous les mouvements d'extrême droite d'Europe, même en Amérique, même en outre-Atlantique. Bien sûr que ici, la Russie n'est pas étrange de tous ces enjeux parce que la Russie a soutenu toute la propagande qui a réussi de faire l'extrême droite en Roumanie, par exemple, d'être bien prisée par une assez grande partie de l'électorat. Il faut dire que le problème en Roumanie maintenant, à mon avis, c'est que nous avons ce personnage politique d'extrême droite qui est en tête des sondages pour les présidentielles. Mais de l'autre côté, nous avons un parlement qui a été élu il y a 5 mois. Une semaine après le vote du premier tour présidentiel, qui est maintenant presque à 30% occupé par des parlementaires de partis d'extrême droite. Nous avons trois partis d'extrême droite, anti-Europe, Union européenne, anti-l'OTAN, pro-Trump, qui maintenant ont des sièges dans le Parlement. Donc, il faut espérer que les présidentielles ne vont pas être gagnées par le candidat d'extrême droite parce que s'il va gagner, il va avoir aussi une bonne partie du Parlement à côté de lui. Donc, ça va être un grand problème pour les Roumains, mais peut-être ça va être un grand problème pour les alliés de Roumanie en Europe.
Un problème solide en tout cas. Alors, Catherine Durandin, il y a une sorte de contradiction entre les intentions de vote. Alors, ce ne sont que des intentions, mais en tout cas, on l'évoque depuis le début de cette émission, la percée de l'extrême droite, et l'OTAN et l'Union européenne, qui sont, selon les sondages, toujours considérés par la majorité des Roumains comme des piliers essentiels de la politique étrangère du pays et de sécurité. Et puis, les partis d'extrême droite sont plutôt, eux, à vouloir quitter l'Union européenne. Voilà, comment est-ce que vous expliquez cette contradiction?
Je dirais que c'est absolument chaotique. Il y a aussi une contradiction dans l'idéologie de Kadine Georgescu, qui est d'être un admirateur de Trump, un adorateur de Poutine, et dans la nostalgie du fascisme roumain d'entre-deux-guerres. À ma connaissance, le maréchal Antonescu à Stalingrad était aux côtés des alliés nazis, et pas avec les Russes, pas avec les Soviétiques. Donc, ces contradictions manifestent que la population accepte le chaos. C'est une sorte de vertige anti-système, du tout est possible, radicalement autre chose. Et vous avez beaucoup parlé de l'influence russe. Je crois qu'il faut aussi souligner le phénomène Trump, c'est-à-dire, bon, cette fois-ci, on rase tout d'une certaine manière, on fait des propositions mirobolantes. Et j'insisterai sur le fait qu'on parle de la Russie, mais tout de même, ceux qui sont intervenus directement en condamnant l'annulation des élections sont Gilles Vance et Musk au moment de l'annulation des élections. Au moment de l'annulation, l'interdiction plutôt, de la candidature de Georgescu, Gilles Vance a récidivé et du côté français, Bardella, Dupont-Aignan, excusez-moi, il y en a un troisième, Marion Maréchal, ont condamné cette interdiction d'élection. Et dernièrement, c'était aussi assez honorifique, venant des États-Unis, le fils aîné de Trump était à Bucarest le 28 avril en parlant de la Roumanie comme un futur Eldorado des affaires. Donc je crois que tout est vraiment chaotique, mais avec cette ambiance de volonté de rupture soutenue par les États-Unis.
Volonté de rupture, situation chaotique. Nous poursuivrons en développant l'influence russe, la relation de la Roumanie avec la Russie et du phénomène Trump dans quelques instants. You are
să pe scurt. Vine seara ce-am pățit, mă dă de ipa lungit, mă prefăcui că am murit. Să mă dușmanii ce zic, măi, la dușman le pare bine. Mândrele plângeau de mine. Eu curvan a furisit, m-am mâncat cu țoaica lui. Lele, lele, și-a mea. Niciuna, măi, și-ndă cu cea ca să jură. Eu jură, dar nu prea, măi, că știam că este așa, măi, că mi-a plăcut dragostea, măi, cu nevasta altuia, măi. Ia le-le-le. Dumnezeu s-o miluiască, unde-i pui mâna de lansă, unde nu știi mai de învață, îi pui mâna la jartele, ea mă strângea între picere, vai de păcatele mele. Să iau borți de țâță-n gură, și să-l trosnesc ca poua lună. Să-l trosnesc ca poua lună, parcă ar fi țuică de bună. Lelelele, și-a mea, alele.
Géopolitique avec Marie-France Chatin sur RFI.
Le groupe roumain Taraf des Edux, I will tell you how it is in the other world. Je ne sais pas comment on dit cela en roumain. Laurentiu Miu, un commentaire c'est très populaire.
C'est une chanson et c'est une musique assez populaire en Roumanie, en fait, populaire. Et je peux vous dire que même... le symbole musical populaire, le symbole de l'art populaire ont été bien exploités par l'extrême droite et tous les souverainistes ou putinistes, je dirais, parce que je ne peux pas dire souverainiste, parce qu'à mon avis, le souverainiste, c'est un politicien qui travaille pour la souveraineté de son pays, qui essaye de protéger la souveraineté de son pays. À mon avis, l'extrême droite en Roumanie, c'est un camp qui expose au danger la souveraineté de Roumanie et de Roumanie parce que, à cause de ses relations subterranées avec la Russie, par exemple.
Alors, je me tourne vers vous, Florentin Cassonnet, pour qu'on aborde les questions économico-sociales. La Roumanie connaît aujourd'hui, là aussi je parle sous votre contrôle, une inflation finalement assez élevée, avec des inégalités sociales criantes. Finalement, on peut se poser la question du bilan de l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne. On peut rappeler que la Roumanie fait partie de l'Union européenne depuis 2007, si je ne me trompe. Voilà, autour de quoi tournent les préoccupations des Roumains aujourd'hui ?
C'est sûr que les préoccupations sociales, la problématique sociale, elle est, à mon avis, au centre du vote à l'extrême droite, parce qu'on est dans un pays où il n'y a aucun parti de gauche au Parlement. Le Parti social-démocrate ne peut pas vraiment être considéré comme un parti de gauche. Et les Roumains qui sont en difficulté économique, Un camp vers qui se tourner pour renverser la situation, le statu quo, c'est le camp soi-disant souverainiste qu'on peut classer comme voilà, national populiste. L'inflation aujourd'hui en Roumanie, en 2024, elle était de plus de 5%. Elle était de 10% en 2023. 5%, c'est deux fois plus que la moyenne européenne pour un pays qui est l'un des plus pauvres. La crise économique, elle continue à s'étendre. Il y a des mesures d'austérité qui sont en train d'être prises. Tous les candidats à la présidentielle aujourd'hui sont en train de parler de cette crise qui va frapper tout le monde. Donc il y a une grande insécurité. Et oui, sur le bilan de ces presque 20 ans d'adhésion à l'Union européenne, aujourd'hui les Roumains, ils commencent à voir les choses peut-être avec un regard un peu plus critique qu'en 2007 quand ils sont rentrés, où ça apparaissait comme la panacée à tous leurs problèmes. Aujourd'hui, ils font les comptes, ils voient que pour une grande partie, enfin pour une partie de la population, en tout cas, l'Union européenne n'a pas rimé avec richesse. Pour certains Roumains, oui, mais pour beaucoup d'autres, non. Il y a eu une ouverture du marché, une déréglementation de l'économie, il y a eu beaucoup de gens qui se sont trouvés fragilisés, il y a eu une mise en compétition des gens les uns avec les autres qui a un peu brisé la solidarité, beaucoup de gens sont partis à l'étranger, il y a eu pas mal de situations d'exploitation. Aujourd'hui, voilà, tout ça remonte. Et peut-être que les Roumains ne veulent pas dire qu'ils sont contre l'Union européenne. Le fait est qu'il y a toujours un attachement. En tout cas, moi, quand je parle aux gens, je le ressens comme ça. Il n'y a pas un rejet. Par contre, il y a une critique de fond qu'il faut sûrement entendre.
La question, Catherine Durandin, de la corruption, elle est évidemment, d'une certaine manière, un peu dans tous les esprits. En tout cas, il y a très certainement des clivages importants entre les campagnes et les villes roumaines. Quels sont aujourd'hui les grands clivages qui structurent la vie politique roumaine, Catherine Durandin?
Je crois qu'il y a, et ça a été dit, et ça vaut la peine de le répéter, des inégalités sociales qui se sont creusées. Et donc, en période de crise, l'enrichissement des plus riches et milliardaires roumains qui existent choque d'autant plus la population. Maintenant, la corruption, ça paraît une tarte à la crème, mais c'est tout de même une réalité en Roumanie comme en Moldavie. En Moldavie, il y a un vrai travail de la présidente pro-européenne Maia Sandu et du gouvernement au pouvoir pour essayer de contrebalancer, sinon éradiquer, ce phénomène de corruption. On a parlé d'enthousiasme d'intégration à l'Union européenne en 2007, c'est vrai. Mais j'ai travaillé pendant des années comme consultant pour le ministère de la Défense dans les années des étapes de l'intégration, c'est-à-dire la fin des années 90 jusqu'en 2007. Et je dois dire qu'à chaque ouverture et fermeture de chapitre qui montrait comment la Roumanie répondait aux demandes et aux contraintes européennes, il y avait des non-dits de ressentiment, notamment sur le plan de la rupture des traditions qu'imposait l'intégration européenne. Je prends pour exemple la dépénalisation de l'homosexualité qui a été votée au CETA en Roumanie en dépit des démarches du patriarche pour éviter un tel scandale. Donc, ça n'était pas ce qui était mis sur le devant de la scène, mais ça existait à portée de main pour nourrir un ressentiment qui éclate aujourd'hui.
Donc finalement, d'une certaine manière, Laurent Tumiou, on peut dire qu'il y a sur certains aspects des accélérations qui se sont faites en Roumanie et le pays n'était pas prêt pour cela.
Non, je vous avais dit au début de l'émission qu'il y a des faiblesses locales en Roumanie qui ont été exploitées par l'extrême droite, par exemple. Parmi les faiblesses sont les problèmes économiques. À mon avis, l'adhésion à l'Union européenne a été la meilleure chance que Roumanie a eue dans son histoire après l'unité des territoires roumains. Mais le problème, c'était pendant toutes ces années la mauvaise gouvernance, si c'est le terme correct en français. Parce que, vous savez, j'ajouterais aussi le déficit budgétaire qui est extrêmement grand en Roumanie en ce moment et qui pèse aussi sur la vie économique, mais aussi sur la vie politique et la vie sociale de Roumanie. C'est pour ça qu'il faut reconnaître tout ce qui se passe mauvais en Roumanie, mais de l'autre côté, il ne faut pas choisir une voie encore plus mauvaise que ce que nous avons maintenant, parce que l'extrême droite en ce moment n'a pas des solutions ou soit n'a pas présenté des solutions concrètes aux problèmes concrets. Je veux vous dire que cette semaine en Roumanie, on s'est organisé 3 débats électoraux pour les candidats aux présidentielles. Aujourd'hui va être organisée la troisième. Hier et avant-hier, le candidat qui est en tête de sondage, M. George Simion, il est absenté. Donc je pense que, en fait, tous les signes sont qu'il va, être absent aussi au troisième. Il évite de répondre aux questions très délicates, des questions liées au programme, à son programme présidentiel, des questions liées à sa relation avec M. Călin Georgescu. Il y a des choses à éclaircir parce que, vous savez, M. Călin Georgescu, il veut sortir Roumanie de l'OTAN, de l'Union européenne. Il veut approcher Roumanie de Russie. M. George Simion, il n'explique pas exactement comment ça peut être calibré avec ses propres déclarations. Chaque fois, il essaie de calmer les esprits en disant qu'il ne s'agit pas d'une sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, mais de l'autre côté, il est l'héritière et il est soutenu par M. Călin Georgescu, qui a de très, très fortes avis sur ce sujet. Donc le problème, c'est que la Roumanie et les Roumains et l'Europe n'ont pas besoin maintenant d'une encore plus mauvaise solution pour les problèmes déjà difficiles de Roumanie. Et cette solution plus mauvaise va être l'élection du candidat de l'extrême droite au présidentiel.
En tout cas, on l'a bien compris, Catherine Durandin, la Roumanie est à un tournant politique majeur. J'aimerais revenir sur ce qu'on a évoqué précédemment, c'est le phénomène Trump, l'influence russe. Sur quoi reposent les idées pro-russes en Roumanie aujourd'hui, Catherine Durandin ?
Alors, je corrigerai peut-être en disant, est-ce véritablement pro-russe ou pro-Poutine? Vous me direz, c'est inséparable. Pas tout à fait. Je crois que Poutine représente une sorte de vainqueur, d'homme de valeur traditionnel, orthodoxe, familial. C'est là aussi plein de contradictions vu ce qu'est la famille de Poutine, mais peu importe. Il y a donc une attirance par rapport à l'homme de paix, puisque Poutine, accrochez-vous bien, est présenté comme l'homme de paix, Macron l'homme de guerre, et les Européens des va-t-en-guerre. Et je crois que ça, c'est très important comme manipulation des images, cette espèce d'illumination du pouvoir hors du système parlementaire. Il a été dit, et c'est tout à fait exact et frappant, que George Simion ne se présente pas aux débats qui ont eu lieu cette semaine, que Georgescu, en ce moment, n'est pas venu le 26 mars à une grande manifestation qui était organisée pour lui, par Simion, pour son anniversaire. Alors, ce n'est pas de l'absentéisme, c'est une façon de bien signaler à l'opinion publique qu'ils ne font pas partie du système ancien parlementaire, qu'ils ne sont pas au niveau de ces parlementaires ineptes et corrompus que sont les représentants des autres partis politiques. C'est extrêmement intéressant de voir cette volonté d'indépendance. Et alors, d'ailleurs, c'est amusant de signaler que Victor Ponta, qui est tout et rien et tout à la fois, se présente comme indépendant, n'est-ce pas ? C'est obligatoire si on veut être gagnant. Et que Dan Nicușor, le maire de Bucarest, se présente comme indépendant lui aussi.
Alors, on abordera dans quelques instants la question ukrainienne, essayer de comprendre le rôle qu'elle joue en Roumanie aujourd'hui et particulièrement dans la campagne électorale.
Thank you.
de paroles à comprendre. En tout cas, c'était le groupe Zmei 3. On poursuit sur la Roumanie dans le cadre des élections présidentielles qui se déroulent demain. Florentin Cassenet, j'aimerais comprendre le rôle que joue la question ukrainienne aujourd'hui dans les débats politiques en Roumanie et dans le cadre de cette élection présidentielle.
Déjà, il faut rappeler que la Roumanie a des centaines de kilomètres de frontière avec l'Ukraine, pas loin de 1000, je crois, et qu'à l'est du pays, il y a par exemple des bouts de drones qui sont déjà tombés sur le territoire roumain. Donc c'est très concret, la guerre en Ukraine. À Tulcea, dans le delta du Danube, qui est une zone qui est, voilà, qui est partagée par l'Ukraine et aussi par la Roumanie, il y a des alertes sur les téléphones très stridentes qui sont envoyés aux habitants la nuit, très régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour signaler la possibilité de chute d'objets du ciel. Donc, ça crée une vraie anxiété. Puis ensuite, à ça, il faut ajouter la question des réfugiés ukrainiens. En 2022, quand la guerre a commencé, il y a eu une véritable solidarité. Vraiment, ça venait du cœur. Les Roumains ont ouvert leur maison, littéralement. 3 ans plus tard, c'est plus du tout la même position par rapport à ces réfugiés, parce que on voit certains parlent des voitures très chères des Ukrainiens qui viennent en Roumanie. Certains évoquent aussi le deux poids deux mesures sur le passage des camions de céréales qui a affecté les agriculteurs roumains. Donc le débat a un petit peu changé et ce soutien aux Ukrainiens. Il arrive à une limite où, d'accord, on aidait les Ukrainiens, mais faudrait s'aider soi-même, déjà. Et je pense que c'est ça qui a fait que les partis d'extrême droite, quand ils ont parlé de paix, ce que les partis au pouvoir n'ont pas vraiment mis sur la table, parce qu'ils suivent la ligne de l'Union européenne ou de l'ancienne administration Biden, quand ils ont amené ce sujet de la paix sur la table, les partis d'extrême droite, ils ont bénéficié en fait de cette envie que les Roumains ont d'une normalisation de la situation, de leur situation.
Alors, Laurent Miu, on évoque même une vague de haine anti-ukrainienne en Roumanie, je ne sais pas, mais pour ce qui est, et on poursuit là-dessus, de la question ukrainienne et de son impact dans la politique roumaine aujourd'hui, Catherine Durandin parlait précédemment d'Emmanuel Macron, qui était un peu dans la cible d'attaque. On peut rappeler que les sphères d'extrême droite reprochent à Macron de vouloir entraîner la Roumanie dans la guerre. Sur les réseaux sociaux, des messages complotistes s'en prennent de plus en plus directement aux 1500 soldats français déployés en Roumanie depuis 2022, en les comparant à des forces coloniales. Oui, la question ukrainienne a un fort impact sur cette élection. Oui.
Nous trouvons ici toute la narrative russe, en fait. Mm. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas discuter d'une haine, vague de haine, parmi la population générale de Roumanie. Oui, on peut discuter d'une sorte de haine exploitée du point de vue stratégique par l'extrême droite. De l'autre côté, il faut rappeler que M. George Simion, qui est en tête des sondages pour les présidentielles, il a l'interdiction d'entrer dans les territoires ukrainiens et le territoire de République de Moldavie depuis des années, à cause de ses activités systématiques contre ce pays. Donc, on va avoir une situation très intéressante si M. George Simion va être élu président de la Roumanie, parce que, à mon avis, de ce que je connais, il va être le premier président du monde qui ne peut pas entrer dans deux pays voisins, dans deux pays de ce monde.
L'Ukraine et la Moldavie, donc.
Oui, ouais. Ce sont deux pays essentiels pour les relations étrangères de Roumanie, avec dans ce moment qui est si tensionné, et dans ce moment qui peut... c'est un moment très délicat, parce que jamais comme auparavant n'a plané même le danger d'un conflit classique pour la Roumanie à cause de la Russie, c'est ça. Donc, à mon avis, c'est fondamental que Roumanie soutienne l'Ukraine de tous les points de vue et que la Roumanie se rallie aux ses alliés européens. Emmanuel Macron, le président français, il est vu comme l'homme de guerre que dans les narratives russes en Roumanie, au moins en Roumanie. Donald Trump, il est vu comme l'homme de paix que dans les narratives russes en Roumanie, de ce que je connais.
Alors, Donald Trump, on va parler de lui avec vous, Catherine Durandin, et puis nos autres invités, bien sûr, Laurentiu Miu et Florentin Cassonet. Les partis pro-européens de Roumanie, on l'a dit précédemment, doivent faire face finalement au vent mauvais venu de Washington, avec les proches de Donald Trump qui multiplient les signaux de soutien à l'extrême droite roumaine, qui en retour affiche un trumpisme à tout craint. Qu'est-ce que la Roumanie craint par rapport au président américain, qu'il ne décide subitement de retirer les forces américaines d'Eveslu, je le prononce sûrement pas correctement, mais dans le sud de la Roumanie, où elles assurent la gestion d'un bouclier antimissile visant à défendre l'ensemble de l'Europe. Et puis, au bord de la mer Noire, une gigantesque base aérienne de l'OTAN qui est en cours de construction et qui sera la future plus grande base de l'OTAN en Europe. C'est de perdre tout cela que, finalement, les Roumains craignent dans leurs relations avec les Américains.
Je crois que nous sommes encore une fois dans une très profonde contradiction. D'un côté, il y a une façon de ne plus supporter la guerre russo-ukrainienne et sa présence physique qui a été dite avec exactitude pour les Roumains de la région de Dobroudja, de Dolcha, etc., qui ont des bouts de drones et un univers de guerre. En même temps, donc volonté de paix, c'est ce que Georgescu a expliqué lorsqu'il a remporté le premier tour des élections en novembre. Il a dit « Ma victoire, c'est la victoire de la paix. Et je ferai un référendum pour sortir de l'OTAN. » OK. Mais dans le même temps, le pouvoir en place, le président par intérim en place, le ministre de la Défense rassure tous les deux jours l'opinion publique roumaine pour dire « Soyez sans crainte, nous avons des assurances, les Américains ne s'en vont pas. » On est donc, si vous voulez, sur un équilibre de bascule entre « je veux la paix », mais aussi « je veux la sécurité ». Alors la sécurité, c'est une alliance avec Poutine ou est-ce qu'il faut quand même garder quelques Américains sur place? Et donc on a peur que les Américains s'en aillent. Et je trouve que c'est assez pathétique comme situation, d'autant plus qu'après tout, on ne sait pas encore quelle sera l'évolution de l'OTAN sous la direction d'un président américain qui s'appelle Trump.
Et la question européenne, Florentin Cassonet, se pose également. Sortir de l'OTAN et maintenant sortir de l'Union européenne. Enfin, voilà, quelle relation la Roumanie entretient avec l'Union européenne et qu'est-ce qu'on peut dire de son positionnement aujourd'hui au sein de l'Union européenne?
Je crois que la sortie de l'Union européenne pour la Roumanie ne se pose pas. Ce n'est pas une question qui se pose, en tout cas pour l'instant. Entre les déclarations des candidat soi-disant souverainiste et ce qu'ils feraient s'ils arrivent au pouvoir, voilà, il y aura peut-être un fossé. Par contre, il y a une critique qu'on entend et qu'on n'entend pas que, qui est certes instrumentalisée par les partis d'extrême droite, mais qu'on entend chez les gens. Je me souviens d'une conversation récemment avec un chauffeur de taxi, qui disait que l'intégration à l'Union européenne, ça a été catastrophique. Lui, quand ses parents vont mourir, il a dit qu'il déménagerait en Afrique. Il n'y allait pas dans un pays d'Europe de l'Ouest. Mais la question de la sortie de l'Union européenne, à mon avis, ne se pose pas. Les Roumains sont très attachés à l'Union européenne et ils ne sont pas devenus pro-russes. En tout cas, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on entend. C'est juste que... comme disait Catherine Durandin, c'est un chaos tel qu'il y a des nouvelles divisions qui apparaissent, qui sont totalement contradictoires. Mais il faut prendre vraiment tout ça avec des pincettes et se retenir de faire une division en deux camps entre les pro-russes et les pro-européens. Ce n'est pas une division réelle aujourd'hui en Roumanie.
Donc beaucoup de chaos finalement, beaucoup de confusion, Laurentiu Miu, pour ce pays dont, je le rappelle, la population est de 19 millions d'habitants.
La confusion, les contradictions, le paradoxe sont enracinés même dans les dans le parcours de leaders d'extrême droite qui maintenant essayent de présenter le Roumanie comme un pays fracturé, qui essaie de fracturer le pays. Parce que je me rappelle que M. George Simion, au début de son activité publique, de sa vie publique, il n'était pas ni proche de l'Église, ni proche de croyances. Il était bien progressiste, il n'était pas du tout conservateur. Il est devenu comme ça, à mon avis, strictement parce qu'il est un grand opportuniste et il a eu l'intuition que c'est comme ça qu'il peut avoir une bonne ascension de politique. Et il a eu cette ascension politique. C'est la même chose avec M. Calin Georgescu, qui est un ancien communiste, qui est une figure politique de longue durée en Roumanie. Il n'est pas anti-système, il n'est pas quelque chose de nouveau dans la vie politique de Roumanie. Il est bien connecté dans l'environnement des anciennes hautes figures du régime Ceausescu. Il a eu des positions, il a détenu des positions dans des ministères roumains pendant les années 90. Il a travaillé avec des financements étrangers. Il a vécu beaucoup des années à l'étranger. Mais pourtant, il a réussi d'incarner maintenant le sentiment nationaliste, souverainiste, traditionnel roumain. Il n'était pas plus aussi proche aussi de l'Église. Maintenant, il est le plus conservateur politicien de Roumanie avec M. George Simion. Donc, les contradictions sont ici. Ils sont des opportunistes qui exploitent ces contradictions. Et c'est la même chose qui se passe aussi outre-Atlantique, en Amérique. Donald Trump, il veut faire America great again. Comment? En renonçant exactement aux choses, aux stratégies qui ont fait l'Amérique grande, parce que l'Amérique est devenue la première puissance du monde du moment qu'elle a commencé de s'ouvrir envers le monde, de point de vue économique, militaire, politique, soft power. Maintenant, il commence à renfermer l'Amérique, et à mon avis, la logique, c'est que l'Amérique va devenir pas grande, mais petite.
Alors, il y a plusieurs choses dont on n'a pas encore parlé. La première, c'est l'importance des réseaux sociaux. La question de TikTok. Monsieur Simion revendique 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Ça me permet d'aborder la question de la Chine. Catherine Durandin, on n'a pas parlé du rôle de la Chine. Et puis, du voisin roumain qu'est la Hongrie. Viktor Orban a-t-il un rôle de près ou de loin dans l'élection présidentielle de son voisin roumain, Catherine Durandin.
Écoutez, avant de répondre très directement à votre question, je voudrais peut-être revenir sur la carrière de Calin Georgescu. Il y a quelque chose de très étonnant qui vient d'être dit et je voudrais appuyer ces informations. Calin Georgescu vient des milieux scientifiques, de hauts dignitaires, d'académiciens, de la période Ceausescu jusqu'à la période Iliescu, comprise dans les années 90 et après. Il y avait vraiment des groupes qui avaient été formés à l'Institut du Parti communiste, qui a été supprimé en 1989, qui représentaient une élite plus que technocratique, une élite très rationnelle, rationaliste, pas du tout proche de l'Église orthodoxe, et en tout cas à l'opposé des visions que propose aujourd'hui Georgescu. Mais en même temps, Georgescu, autre contradiction, qui se présente comme anti-médecine, anti-chimio, anti-avortement, anti-vaccin, où il a fait un peu de sa carrière au moment du Covid avec des sites anti-vaccin. Dans le même temps, il se présente lui-même en ce moment et récemment comme un disciple de quelqu'un qui a été son mentor, qui s'appelle Mircea Malița, qui est mort en 2018, qui était un grand académicien, et qui encore en 2018, avant sa mort, prenait des positions contre l'Union européenne pour montrer que la transition via l'Union européenne avait été une faillite pour les intérêts nationaux roumains. Donc on est, si vous voulez, médusé devant des personnages à multiples facettes et qui ne cachent pas ces multiples facettes.
Alors, je ne sais pas qui souhaite réagir et si on avance dans le débat, il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission avec peut-être cette question. Florentin Cassonnet, vous êtes donc sur place à Bucarest. Quel scénario possible? Stabilité à venir, crise prolongée pour la Roumanie?
Je me garderai bien de faire des pronostics parce que vraiment, on ne peut pas faire confiance aux sondages. Tout ça, c'est très volatile. Dès qu'un candidat apparaît comme plus ou moins proche du système, il perd certaines confiances des électeurs. Il faut vraiment attendre le deuxième tour pour savoir qui sera opposé au candidat d'extrême droite parce que ça pourrait très bien être Nikou Jordan, qui un libéral pro-européen, disons, ou Victor Ponta, qui est un opportuniste trumpiste qui a adopté aussi pas mal de positionnements de Calin Georgescu. Donc, vraiment, ça peut aller, j'ai envie de dire, ça peut partir dans tous les sens.
Nicu Sordan, donc le maire de Bucarest, et Victor Ponta, qu'on qualifie de caméléon. Laurentiu Miu, en guise de conclusion sur tout ce que nous venons de dire à propos de cette élection présidentielle de demain en Roumanie.
C'est difficile de d'avoir une intuition qui va se qualifier dans le deuxième tour parmi les candidats, disons, pro-européens, parce que c'est une course très, très, très serrée. Mais de toute façon, moi, j'espère que Roumanie va pouvoir, après 18 mai, dire que l'avenir, c'est l'Europe, l'avenir, c'est l'Occident. Et ça veut dire que en ce moment-là, au palais Cotroceni, nous allons avoir un président tout à fait autre que M. George Simion.
Rendez-vous en tout cas pour ce deuxième tour avec Géopolitique qui sera depuis Bucarest. Merci Laurentiu Miu. Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous travaillez pour le site internet universul.net. Merci aussi à Catherine Durandin qui était avec nous par téléphone, professeure émérite des universités et historienne. Et depuis Bucarest, Florentin Cassonnet, journaliste au Courrier des Balkans. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation. Et Cécile Lavolo, vous êtes bien sur RFI. L'actualité se poursuit avec RFI Soir et puis tout de suite le journal.